J'ai un texte ici qui finalement, après à peu près 10 ans, a été traduit et publié en français. Ça contient à peu près tout ce que je vais dire ce soir et encore un peu plus.
Bon, au revoir.
Oui, oui, c'est ça, oui. Alors...
Est-ce qu'on pourrait le conserver?
Oui, vous pouvez, oui. Alors, donc, au lieu de donner la preuve comme telle, je vais, pour raccourcir un peu la présentation, je veux parler de la preuve plutôt que de le présenter. Parce que le présenter comme il faut, ça prend quand même... Donc la première question, c'est à savoir... Comment est-ce qu'on démonte l'existence de quelque chose qu'on ne voit pas? Si on parle de preuves, et Abdelbar a parlé de preuves rationnelles ou logiques, d'abord, on peut soulever la question, si Dieu existe, pourquoi on ne peut pas le voir? Alors moi, je ne veux pas entrer dans toute une discussion là-dessus, mais le problème avec cette façon de voir, c'est comment est-ce qu'on saurait qu'on a vu Dieu? N'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une vision qu'on a ou une perception est Dieu? Il y a bien des hommes, par exemple, dont la plupart sont des fous déclarés, mais néanmoins, il y a des gens qui ont revendiqué être Dieu, n'est-ce pas? Ça existe, n'est-ce pas? Alors pourquoi on ne croit pas au moins une de ces personnes? Pourquoi? Parce que pourquoi on le croirait, n'est-ce pas? En fait, c'est un homme comme nous, enfin, etc. Ou supposons qu'un homme fait des miracles, supposons que je me levais, je traversais ce mur devant vous de façon incontestable. D'accord, vous serez bien impressionné, n'est-ce pas? Vous dites, ben voilà, c'est quand même, ça contrecarre les lois de physique connues. Mais est-ce que ça fait de moi Dieu, n'est-ce pas? De toute façon, Dieu, s'il existe, est supposément l'origine de tout ce qui existe, y compris, donc pour lui, passer au travers des murs, c'est lui qui a construit des murs, c'est lui qui a construit les lois de physique. Alors, le fait que moi, je peux jouer avec ça, ça ne me fait pas Dieu. Etc. Alors, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais souvent quand les gens exigent des miracles, ils ne croient pas à Dieu parce que je n'ai jamais vu d'évidence que Dieu existe, ou si Dieu existe, pourquoi il ne se montre pas de façon incontestable devant nous? Alors, si on demande, on poursuit ça en disant, mais... Et d'après toi, qu'est-ce qui serait une manifestation incontestable de Dieu que tu accepterais sans poser des questions? Alors, je n'ai pas encore trouvé la seule personne qui peut répondre à cette question. C'est-à-dire, il peut commencer à imaginer, supposons qu'on faisait toutes sortes de choses, le soleil tombait, je ne sais pas quoi, mais est-ce qu'il n'y a pas de doute quand même que ce phénomène puisse arriver sans que ça soit une manifestation de Dieu? Alors les gens sont obligés de dire oui, c'est possible. Alors, en fait, on voit que Dieu, s'il existe, on doit le concevoir comme au-delà de ce que nous pouvons observer. On peut aussi retourner la question d'observation disant, peut-être on a vu Dieu sans savoir. Puisqu'on ne connaît pas Dieu, alors peut-être sans savoir, nous avons tous vu Dieu, c'est possible aussi. Mais donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne pouvons pas conclure à l'existence de Dieu simplement par ce que nous observons sans réfléchir dessus, ok? Simplement par la simple observation directe, comme on reconnaît un chien ou un chat, etc., on ne peut pas reconnaître Dieu de cette façon, sans raisonner dessus. Donc, je pense que ça, c'est une première signification de ce qu'Abdu'l-Bahá veut dire quand il dit qu'il faut donner des preuves rationnelles. Il parle de rationnel et logique, qu'il faut, pour accéder à Dieu, il faut aller au-delà d'une simple observation irréfléchie ou sans critique. Alors, donc, comment est-ce qu'on jongle avec l'invisible? Alors, la méthode scientifique nous donne un moyen. Et alors, prenons le cas absolument le plus banal que soit, c'est-à-dire la gravitation. Alors, comment est-ce qu'on sait que la force de gravité existe? Est-ce qu'on observe la force de gravité? Non. Par exemple, je laisse tomber ce livre. Est-ce que vous avez vu une force? Vous avez vu quelque chose? Comment? Vous avez le fait que ça tombe, vous avez vu que ça tombe. Là, je suis d'accord. Mais est-ce que vous avez vu une force qui fait que ça tombe?
Ben oui, autrement il ne serait pas tombé.
Mais supposons qu'on était transporté immédiatement dans, dans l'espace où il n'y avait pas la force de gravitation. Si je laissais ça, ça ne tomberait pas.
Il n'y aurait plus de force.
Oui, mais la force, vous ne la voyez pas. La force, vous déduisez l'existence de cette force. C'est ça, la force n'est pas observée. La force elle-même est inobservable. Alors, examinons exactement le sort de raisonnement qui nous amène à affirmer qu'il y a une force de gravitation. Regardons ce phénomène. Quant à tout ce que nous pouvons observer, il y a une infinité de possibilités logiques. C'est-à-dire, rien n'empêche que ce livre va comme ça, comme ça. C'est-à-dire, si je l'avais là, tu peux dire, ça ne peut pas descendre. Si j'avais contre le plafond, tu peux dire, ça ne peut pas monter. Mais là, il n'y a rien, quand je le relâche, il n'y a rien qu'on puisse observer qui empêche que le livre prend un chemin quelconque. N'est-ce pas? Donc, toutes les possibilités sont, toutes ces possibilités sont également présentes dans ce phénomène. Cependant, il y a une de ces directions qui est privilégiée, n'est-ce pas? Parce que je laisse tomber, ça tombe, mais peut-être la prochaine fois ça va monter, attention, peut-être c'est chaotique. Mais non, chaque fois que je laisse aller, ça tombe, etc. Je fais ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça tombe toujours. Donc, qu'est-ce que nous observons? Nous observons une déviation persistante du hasard. C'est-à-dire, si le comportement de cet objet était vraiment chaotique, c'était vraiment aléatoire, okay? Alors on s'attendrait à ce que quelques-unes de ces autres possibilités s'accomplissent dans la réalité. N'est-ce pas? Donc il a des phénomènes aléatoires. Le mouvement brownien des molécules d'air est aléatoire, n'est-ce pas? Donc, il y a, la science reconnaît qu'il a des phénomènes aléatoires. Et justement, les phénomènes aléatoires n'ont pas besoin d'explication, en quelque sorte. Parce que pourquoi est-ce qu'il faut expliquer le chaos, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la chaos, c'est, si vous voulez, la position de défaut de l'univers, n'est-ce pas? Comment?
Il n'est pas utilisable, non,
peut-être. Oui. Non, mais en fait, ça, c'est la deuxième loi de la thermodynamique, n'est-ce pas? La deuxième loi de la thermodynamique nous dit ça exactement. Que l'ordre ou la structure est improbable et le désordre ou le chaos est probable. Que tout système laissé à lui-même dégénère vers le chaos. Et cette loi, nous avons plus d'évidence pour cette loi que toute loi que nous connaissons, n'est-ce pas? La raison pour cela, c'est tout simplement que l'ordre représente un nombre relativement restreint de configurations parmi toutes les configurations possibles. Alors, je donne l'exemple suivant. Comparons un tas de briques d'un côté et une maison bien construite de briques de l'autre côté. Faisons la transformation de la maison de briques en un tas de briques, brique par brique. On va prendre une brique à la fois. Donc, combien de façons est-ce que je peux transformer la maison de briques dans un tas de briques? C'est une infinité. Et je peux faire ça dans n'importe quel ordre. Je peux prendre n'importe quelle brique pour la première brique, n'importe quelle brique pour la deuxième brique, etc. Pourquoi? Parce que n'importe quelle configuration de briques est un tas de briques. Un tas de briques, c'est le chaos. OK? Il n'y a pas d'ordre. Maintenant, faisons la transformation inverse. Je commence avec un tas de briques et je veux construire une maison de briques une à une. Alors, je ne peux pas faire ça dans n'importe quel ordre, n'est-ce pas? Il faut que je pose une brique de bas avant de poser une brique de haut, n'est-ce pas? Maintenant, il y a plus d'une façon à faire, évidemment, je peux prendre toutes les permutations des briques, enfin, ça, etc. Mais c'est quand même limité, le nombre de façons que je peux faire, n'est-ce pas? Et plus que c'est structuré, c'est-à-dire plus raffiné que soit l'ordre, moins de possibilités que j'ai à faire. C'est-à-dire que je veux que ça soit vraiment droit, que j'ai tant d'angles droits, etc. Enfin, je ne sais pas quoi. Enfin, plus que je mets des exigences, c'est-à-dire plus que c'est structuré, moins que c'est probable, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le deuxième mot de thermodynamique, qui dit tout simplement que si on construisait une maison de briques dans la forêt, on le laissait pendant 50 années, on revenait, on découvrait un tas de briques, on ne serait pas surpris. Mais si on laissait un tas de briques pendant 50 ans, on revenait, on trouvait une maison bien construite, on serait dit, mais ok, qu'est-ce qu'il y a? Quelle force a construit ça, n'est-ce pas? Autrement dit, nous déduisons l'existence des forces invisibles quand nous observons la déviation du hasard. C'est l'écart du hasard, l'ordre ou la structure qui est le signe visible de l'invisible, d'une force invisible. Okay. Donc, il y a plusieurs, on peut tirer beaucoup de ce simple exemple. D'abord, on voit... Je ne veux pas entrer là-dedans, mais oui, c'est un exemple, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. L'électromagnétisme, la force faible et la force forte aussi. Ce sont les quatre forces actuellement connues. La plupart des physiciens ne présupposent pas que ça c'est seulement cela, mais les quatre forces jusqu'à maintenant connues sont la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Et ces forces ont différentes puissances et différentes qualités d'attraction. Par exemple, la force faible nucléaire a une forme seulement répulsive. On ne connaît aucune forme attractive de cette force-là. Et c'est ça qui cause la radiation, la dégénération radioactive. Oui. Alors, donc, toutes les quatre forces fondamentales de la physique moderne sont tous invisibles, n'est-ce pas? Ils sont tous, leur existence est déduite. Là, par exemple, le plus facile à déduire, c'est la force nucléaire forte. Parce que la force nucléaire forte, c'est ce qui tient des protons ensemble dans le noyau d'un atome. Alors, nous savons par la force électromagnétique que des protons sont positivement chargés et donc, selon les lois de l'électromagnétique, ils se repoussent. Donc, si les protons se tiennent ensemble dans le noyau d'un atome, ça veut dire qu'il doit y avoir une force plus grande que la force de répulsion pour les tenir ensemble. Aussi, dans les forces, il a le rayon d'action est plus court plus que la force est forte. C'est-à-dire le rayon d'action de la force nucléaire forte est très court, parce que dès que vous réussissez à écarter un petit peu les protons, là, la force, le rayon d'action est très court, Et quand vous allez au-delà de cette rayon d'action, alors la force électromagnétique prend le dessus et ça les repousse, ce qui arrive quand le noyau éclate, n'est-ce pas? Comme dans une explosion nucléaire. Et la prochaine c'est la force électromagnétique qui tient par exemple les électrons autour du noyau. Et ensuite, la prochaine, c'est la force nucléaire faible. Et la plus faible de tout, c'est la force de gravitation. Et selon la théorie de Newton, le rayon d'action de la force de gravitation est infini, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est le principe de Newton, que toute chose dans l'univers attire toute autre chose dans l'univers avec une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de distance entre les deux, n'est-ce pas? Donc, vous avez la force nucléaire forte qui a un tout petit rayon d'action et la force de gravitation qui a le plus grand rayon d'action. Alors, ce sont tous des forces non observables, mais les effets sont observables. Donc, on déduit l'existence de ces forces par leurs effets, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a plusieurs choses à tirer de cet exemple. D'abord, qu'une chose invisible peut être la cause d'un phénomène visible. Parce que nous invoquons l'existence d'une force non observable pour expliquer le phénomène observable du fait que les objets non supportés tombent. Donc on observe le phénomène, mais on n'observe pas sa cause. Donc, ça, c'est déjà un coup contre le matérialisme banal prôné par beaucoup de personnes qui présupposent que le monde matériel contient sa propre raison d'être. C'est pas vrai. Le monde matériel est produit par le monde invisible. Le monde observable est produit par le monde non observable. Enfin, il y avait un physicien français qui avait expliqué comme ça. Il dit, imaginez que la réalité visible, c'est, vous êtes au bord de la mer, la réalité visible, c'est ce qui est en dessous la mer, okay? Et la réalité invisible, c'est tous les poissons, tout ce qui est dans les profondeurs de la mer, que vous ne voyez pas, ok? Il dit, imaginons donc un poisson qui saute, qui fait une sorte de parabole, n'est-ce pas? Enfin, il saute, il obtient son apogée, il retombe. Donc, ça, c'est tout l'univers visible, c'est comme ça. Ça provient de l'invisible, ça atteint un certain point optimum ou maximum, et ça retombe éventuellement dans le monde invisible. Et évidemment, ce que nous avons découvert dans les dernières années, c'est comment provoquer ces choses-là. Par exemple, toutes les particules élémentaires sont des formes d'énergie pure et nous pouvons maintenant les transformer dans de l'énergie pure. Par exemple, on fait une collision entre la particule et l'antiparticule et ça les deux particules se détruisent et enfin se détruisent comme particules et ça devient de l'énergie pure, n'est-ce pas? Donc, l'énergie pure, on ne voit pas, on ne voit simplement ses effets, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est donc une première réflexion assez importante, que la science la plus rationnelle qui soit invoque l'existence des phénomènes invisibles comme seule explication rationnelle pour des comportements observables. Alors maintenant, posons la question, qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Et quelles seraient donc des évidences qu'on pourrait chercher pour essayer de résoudre cette question de l'existence de Dieu? Alors, la définition logique qu'on peut donner de Dieu, c'est simplement que Dieu est l'origine de toute existence. C'est-à-dire, ce que nous savons, c'est que quelque chose existe. Donc, si rien n'existait, nous aurions droit à ne pas croire en Dieu. Mais évidemment, si rien n'existait, nous n'existerons pas, nous ne serons pas là pour poser la question si Dieu existait. Donc, comme Descartes a très bien démontré, nécessairement quelque chose existe. Même si vous dites que tout ce que vous voyez est une illusion est une chose qui existe. Si vous dites, mais ça existe dans ma tête, ok, votre tête existe et l'illusion dans votre tête existe, n'est-ce pas? Donc, on n'échappe pas. Des choses existent. Donc, l'important, enfin, de ce que Descartes a fait, c'est que nous savons certainement que des choses existent sans invoquer la qualité fiable de notre observation. C'est-à-dire, le fait que quelque chose existe ne s'appuie pas sur la fidélité de notre observation, parce qu'immédiatement les gens vont dire « Ah, mais peut-être vous vous trompez, c'est une illusion et tout ça. » Mais peu importe, dit Descartes, c'est une illusion est une chose qui existe, ok? votre esprit doit exister pour entretenir l'illusion, n'est-ce pas? Je pense, donc je suis, comme Descartes a dit, n'est-ce pas? Même s'il n'y a que pensée qui existe, au moins les pensées existent. Parce que pourquoi? Parce que je les ai, les pensées, ok? Et je suis là pour poser la question, est-ce que c'est une illusion ou non, n'est-ce pas? Alors, des choses existent. Alors, l'existence même appelle tout de suite la question, quelle est l'origine d'existence? Alors, donc, voilà un point d'interrogation. Existe-t-il une origine d'existence ou non? Alors, donc, je prends la réponse positive à cette question comme étant Dieu. C'est-à-dire, je définis Dieu logiquement. Voyez que je ne définis pas du tout la nature de Dieu ou quoi que ce soit, mais je dis Dieu, s'il existe, il peut être toute autre chose, mais il est au moins l'origine d'existence. Ce qu'évidemment les religieux appellent le créateur, mais en fait, bon, dans les termes scientifiques, c'est la même chose, l'origine d'existence. Maintenant, regardons comment le monde d'existence est fait. Alors, tout ce que nous observons, encore une fois, dépend d'autres choses, c'est-à-dire rien. Leibniz a énoncé ce principe qui s'appelle le principe de raison suffisante, que chaque chose doit avoir une raison d'existence et cette raison doit se trouver dans autre chose qui est sa cause ou en lui-même, dans quel cas il est sans cause. Mais il a en lui-même une raison suffisante d'existence. Ça serait évidemment Dieu, si ça existe. Alors, nous n'avons jamais observé quoi que ce soit qui est autocausé, n'est-ce pas? Enfin, qui a sa raison d'existence. C'est-à-dire, tout ce que nous avons jamais observé, nous pouvons trouver des causes de cette chose-là. Et si nous portons notre attention sur la cause, nous pouvons trouver les causes de ces causes-là, etc. Comme un scientifique a dit, il dit, les causes connues sont le résultat des causes que nous connaissons à moitié, qui sont les résultats des causes qu'on ne connaît pas du tout. Ah, c'est vrai, c'est la situation de la science. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pouvons toujours descendre à un autre niveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut dire, pourquoi l'herbe est verte? Eh bien, parce que la lumière blanche a tout le spectre des couleurs, et le pigment dans l'herbe absorbe tout le spectre sauf la partie verte qu'elle reflète. Voilà l'explication parfaite. Mais qu'est-ce qui fait que la lumière a tout le spectre de couleurs? Qu'est-ce qui fait que l'herbe a le pigment vert, etc.? Bon, il faut entrer dans la biologie de l'herbe, il faut entrer dans la physique des spectres, etc. Et puis on remonte, on remonte, on remonte. Et jamais on n'a trouvé de fond à tout ça, n'est-ce pas? Jamais on n'a trouvé de fond. Donc, ça soulève la possibilité. Bon, ça nous met devant un choix, c'est-à-dire, ou bien il n'y a pas de fond, Ce qui est très difficile à concevoir, ça c'est un peu l'argument d'Aristote, n'est-ce pas, l'argument de première cause. Maintenant, Aristote a dit, il ne peut pas y avoir une chaîne descendant infinie de causes. Alors, nous savons aujourd'hui que ça c'est faux. C'est-à-dire que le principe de régression à l'infini d'Aristote n'est pas logiquement nécessaire. Okay? Ça ne veut pas dire, nous ne connaissons pas nécessairement qu'il y ait des chaînes infinies descendant de causes, mais nous savons par la mathématique que c'est parfaitement possible, qu'il n'y a pas de contradiction logique, que ça peut être comme ça. Mais quand même, de deux choses l'une. Soit il y a une origine, il y a une cause non causée qui est l'origine de toute existence, ou soit il n'y en a pas, n'est-ce pas? Soit il n'y en a pas, et s'il n'y en a pas, alors on est pris avec cette chaîne infinie descendant de cause. Alors ce qu'on peut dire au moins, c'est que l'hypothèse qu'il a une origine d'existence est certainement au moins aussi rationnelle que l'hypothèse qu'il n'en a pas. Et donc, que, disons, l'évidence le plus primaire est au moins égale, sinon légèrement en faveur de l'existence de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça, c'est à partir du simple fait d'existence. Mais maintenant, si nous observons l'ordre de l'univers, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est au-delà du simple existence et la chaîne de causalité? Qu'est-ce qui est au-delà de ça pourrait être une évidence pour l'existence de Dieu? Alors, je réponds à ça, l'ordre. C'est-à-dire que plus que la réalité ou l'existence est ordonnée et structurée, plus il est probable qu'il a une origine, non seulement une première cause, mais une origine intelligente de cela, n'est-ce pas? Et là encore, à cause de la deuxième loi de thermodynamique, c'est-à-dire que la matière à elle seule n'a pas de pouvoir de se structurer. La matière laissée à elle-même dégénère, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, l'ordre est improbable et l'ordre est probable. Alors, donc, on peut faire un argument exactement de la même sorte qu'on a fait avec la gravitation. Remarquez qu'on n'a pas prouvé absolument, entre guillemets, qu'il y a une force de gravité. C'est-à-dire, vous pouvez être un agravitiste, vous pouvez dire, mais je pense que tous les objets tombants que nous avons observés depuis des millénaires, c'est une grande coïncidence et demain, nous allons nous réveiller et tout va être dans le chaos. C'est simplement que nous habitons un univers où ces coïncidences sont arrivées, mais c'est quand même aléatoire. Le mouvement des objets est aléatoire.
Ce serait pas une loi.
Ça serait pas une loi. Ça serait simplement un hasard, une coïncidence, une improbabilité extrêmement grande. Vous ne pouvez pas réfuter ça. La seule réfutation de ça, du point de vue scientifique, est la suivante. Oui, c'est logiquement possible, mais c'est la moindre probabilité. Et le raisonnement scientifique, c'est toujours de prendre l'explication qui a la plus grande probabilité. Donc, tout le monde est d'accord de dire que il y a la plus grande probabilité, c'est qu'il y a une force invisible qui attire la chose, plutôt que de dire que c'est simplement une coïncidence, n'est-ce pas? Mais ce que je veux souligner avec ce petit discours, c'est la notion de preuve absolue est une invention. Ça n'existe pas de preuve absolue chez l'être humain, n'est-ce pas? Parce qu'une preuve, c'est toujours mesurer quelque chose contre quelque chose d'autre. Et nous pouvons toujours mettre en question la chose que nous utilisons comme étalon pour mesurer une autre chose. Et ça, c'est le recul à l'infini, encore une fois, n'est-ce pas? Mais ce que nous pouvons dire, c'est-à-dire, si on maintenait ce point de vue, ça c'est un peu comme les sophistes raisonnaient au temps de Platon et tout ça. C'est-à-dire, si on maintient ce point de vue, on n'avance pas, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait avancer les choses, c'est la probabilité. C'est-à-dire de dire qu'il y a une différence énorme entre une possibilité logique et une probabilité. N'est-ce pas? Il est une possibilité logique que toutes les instances observées de gravitation sont des coïncidences, mais la probabilité que ça soit le cas est extrêmement faible. Donc, le raisonnement probabiliste, c'est-à-dire qui prend l'hypothèse la plus raisonnable selon les informations connues, c'est la méthode de base de la science. Alors, donc, en posant la question de Dieu dans cet esprit-là, alors qu'est-ce qui pourrait logiquement être une preuve ou une évidence, disons, être une évidence qu'il y ait une origine de l'existence? Alors, encore une fois, je prétends que c'est l'ordre. C'est l'ordre. Non seulement l'ordre, mais le phénomène d'évolution du désordre vers l'ordre. Alors, quelle est la chose la plus structurée qui existe? Mais c'est le cerveau humain, n'est-ce pas? L'être humain est la configuration la plus structurée, la plus ordonnée qui existe dans tout l'univers connu. Même la galaxie des étoiles, c'est rien que des grands fourneaux à gaz qui brûlent comme ça, c'est très simple, n'est-ce pas? Donc, il ne fait aucun doute que de tous les phénomènes observables dans l'univers qui nous est présentement connu,
avec nos moyens
et toutes les conditions que vous voulez mettre dessus, le cerveau humain, je parle de ce qui est observable maintenant, ok? Le cerveau humain, l'être humain, est l'être, l'existant, le plus complexe, le plus structuré. Alors, il est donc beaucoup plus probable que l'être humain est le résultat d'une force, ok? Que ça soit simplement un hasard, n'est-ce pas? Et non seulement ça, je prends l'exemple humain comme un exemple, mais si plus qu'on observe l'univers, plus qu'on observe un ordre extrêmement raffiné. Et maintenant, par exemple, ils ont, les physiciens ont ce qu'ils appellent les constants cosmologiques. Alors, je ne connais pas beaucoup plus que vous là-dessus, mais j'ai lu un petit peu. Et il s'agit un peu de la chose suivante. Selon la théorie cosmologique actuelle, l'univers matériel, ok, a commencé avec le Big Bang, l'œuf cosmique qui a explosé. Et donc, selon la deuxième loi de la thermodynamique, cet œuf cosmique, juste avant qu'il explose, c'est l'ordre le plus parfait. C'est-à-dire que le système est en décroissance d'ordre depuis ce moment-là, selon le deuxième loi de thermodynamique, enfin, qui a été observé. Autrement dit, c'est la dispersion, c'est le course vers le chaos, c'est le cours vers l'entropie maximale, n'est-ce pas, depuis la naissance de l'univers. Alors, on sait avec certitude 100% que si ce modèle est correct, qu'il a, pour qu'on ait l'univers qu'on a actuellement, il a une série de constantes qui devaient s'accomplir. Par exemple, c'est un que je connais, ok? Il semble que dans un nanoseconde après le Big Bang, enfin dans moins d'une seconde, dans une particule de seconde, il avait juste un moment. Ok, bon, je m'excuse. Donc, si j'invoque le deuxième loi de thermodynamique, c'est pour dire que ce processus est irréversible. Ok, c'est-à-dire, selon la théorie du Big Bang, selon toute la théorie cosmologique, le monde évolue dans un sens depuis le Big Bang. C'est-à-dire, donc, c'est irréversible. Il n'est pas question d'aller en arrière et de répondre à quelque chose qu'on a loupé. Okay?
C'est ça l'entropie. L'entropie, c'est que c'est un point de non-retour.
C'est ça, c'est ça.
Il y a des théories, peut-être,
comment?
Il y a eu des théories que, bon, il y a expansion.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et puis, c'est pas encore réglé. C'est pas encore réglé. Mais ce qui est réglé, c'est que l'univers est actuellement en expansion. Donc, s'il va y avoir une phase de contraction, ce n'est pas encore arrivé. Et on pourrait en parler plus tard. Mais Hawking a fait une erreur là-dessus. Il pensait que la contraction serait un renversement de l'entropie. Mais il s'est repenti là-dessus, enfin il avait tort, parce que il avait supposé que la contraction référait
le chemin inverse.
Mais ce n'est pas du tout vrai, n'est-ce pas? Parce que la seule chose, la seule force qui fait la contraction, c'est la gravitation, qui est la force la plus faible et la plus banale qui soit. Alors, donc, ça peut être complètement chaotique la façon que ça se récompose, n'est-ce pas? Donc, et d'ailleurs, c'était un Québécois, La Flamme, un Québécois de l'Université Laval qui avait démontré qu'il avait tort, n'est-ce pas? C'est assez intéressant. Il est un des collaborateurs de Hawking.
C'est récent, on vient de comprendre il y a quelques temps que l'univers est en expansion, alors qu'on aurait cru qu'il serait en compression.
Ben,
c'est récent, ça.
Oui, c'est
assez. Il y a plein de scientifiques depuis des dizaines et peut-être même des centaines d'années qui ont présumé que l'univers était pour se concentrer.
Oui, c'est ça. Alors, mais tout ça, je ne veux pas perdre de vue, enfin, la grande ligne de pensée dans tout ça. C'est-à-dire, par exemple, il y a un moment où, pour qu'il y ait la vie sur la Terre, il faut que la base de la vie, c'est le carbone, n'est-ce pas? C'est le carbone parce que ça a 4 électrons sur la couche extérieure. Et donc, ça forme ce qu'on appelle des chaînes, n'est-ce pas? Des chaînes immenses, ce qui fait les protéines et tout ça, les structures qui sont nécessaires à la vie avec la complexité. Et le carbone est le premier élément dans la table périodique qui a ce phénomène. Donc, le silicone, c'est la prochaine. Enfin, disons, il y a des autres qui sont plus élevés. Mais en fait, la vie, de fait, la vie que nous connaissons dans notre univers est basée sur le carbone. Alors, il y a une nanoseconde où il fallait que le premier atome de carbone se forme. Et si ça ne se forme pas à ce moment-là, ça ne peut jamais plus se réformer. Et donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle une constante cosmologie. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, c'est irréversible si la chose ne se fait pas à ce moment-là. Et la probabilité que ça fait est très très faible. Donc, tout ça pour dire, tous les phénomènes que nous avons sur la Terre, la vie, l'évolution, tout ça, les décisions de ça ont été faites dans les premières secondes de la vie. Enfin, toutes les choses qui ont fait qu'on peut avoir ce type d'univers ont été faites avant les faits. Avant les faits, n'est-ce pas? Alors, les arguments de la sorte qu'on avait il y a 100 ans et tout ça, on avait, bon, étant donné assez de temps avec toutes les choses en fait qui bouillonnent, ça peut éventuellement faire, etc. Non, toutes les décisions ont été faites au début. Et Hawking lui-même, qui se dit toujours athée, a calculé, j'ai le livre là-dedans, je pourrais trouver le chiffre exact, mais il a calculé la probabilité que, par exemple, un atome une molécule de protéines puisse exister par hasard, et c'est un sous le plus grand nombre, en fait, c'est 10 à la exposant, je ne sais pas quoi, en fait, c'est un nombre. Et lui, c'est lui qui a fait la théorie mathématique du Big Bang. Donc lui-même, il dit, on peut parler plus tard de l'argument de Hawking. Mais Hawking lui-même avoue que la probabilité est nulle. Enfin, c'est à toute fin pratique, c'est nul. Donc tout ça pour dire que l'univers démontre non seulement un ordre, mais un ordre extrêmement raffiné. Je donne un autre exemple très banal. C'est une loi générale que des matières se contractent quand elles sont refroidies et elles s'expansionnent quand elles sont chauffées.
Un examen là-dessus ce matin.
Oui, ok. Et... Et on explique ça par l'énergie des molécules, n'est-ce pas? En fait, quand c'est chauffé, ça donne de l'énergie aux molécules. Ils ont plus d'énergie, ils bougent plus, ils prennent plus d'espace, n'est-ce pas? Bon. Mais, curieusement, l'eau, cette chose aussi banale que l'eau, atteint sa densité maximale à plus 4 centigrades. Et en refroidissant de plus 4 à 0, il commence à expansionner. Alors, pourquoi il fait ça? Mais la seule réponse, c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais supposons qu'on changeait juste ce détail-là. Eh bien, il n'y aura plus de vie sur la Terre. Parce que dès qu'il y a de glace, qui forme, disons, sur les lacs ou dans les océans, ça tomberait au fond, n'est-ce pas? Parce que ça serait plus lourd que le reste. Et graduellement, les océans seraient remplis de glace et ça ferait dans quelques années, enfin, vous faites n'importe quel modèle mathématique de ça, dans quelques années, ça va vous faire... ça figerait la vie, complètement, oui. Donc, l'ordre est à ce point, n'est-ce pas? Par exemple, une autre chose, le soleil, la Terre, je m'excuse, dans sa course autour du soleil, change quelque chose comme un millimètre, ça dévie d'une ligne droite par un millimètre tous les 18 000. Donc, tous les 18 000, Ça fait un cercle, bien entendu, une ellipse autour du Soleil. Donc, c'est une ellipse très large, donc c'est pratiquement une ligne droite. C'est une ligne droite, sauf que ça dévie par un millimètre à peu près tous les 18 000. Okay. Maintenant, c'est prouvé que si c'était 2 millimètres au lieu d'un millimètre, ça brûlerait la Terre. Ça ne serait pas possible, la vie. Et si c'était un demi-millimètre, ok,
on gèlerait.
Autrement dit, la Terre est exactement
où elle doit être,
pour qu'il ait de la vie, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, je dis tout simplement que s'il y a de l'ordre, toute l'existence est hautement structurée, est hautement ordonnée, et donc ça augmente la probabilité qu'il y a une force intelligente qui a produit cet ordre, parce que la possibilité que ça vient par hasard, et la possibilité logique est là, mais la probabilité est aussi, et même plus petite que, c'est plus rationnel de ne pas croire à la gravité que de ne pas croire à Dieu. C'est littéralement cela. C'est plus rationnel de croire en Dieu que de croire dans la gravitation. Nous avons plus d'évidence scientifique, aussi dure que vous voulez, pour l'existence d'une force ordinatrice derrière les phénomènes de l'univers, que nous avons pour la force de gravitation, qui est justement une des forces ordinatrices dans l'univers. Alors, ça c'est essentiellement, on peut formuler différentes sortes de preuves. Je formule une preuve basée sur l'évolution biologique, mais on peut former toutes sortes de preuves de ce genre-là. Oui. Donc c'est un mythe, vous savez, c'est un mythe que la croyance en Dieu est irrationnelle.
Mais, je ne sais pas toi, ben, tu évolues évidemment dans le milieu scientifique, ça a peut-être changé depuis quelques dizaines d'années, mais j'allais te demander pourquoi il y a tellement de scientifiques
qui ne croient pas,
qui sont athées et qui affirment que c'est la position rationnelle.
Bon. Alors, la première réponse que je donnerai, c'est que les scientifiques ont des préjugés comme tout le monde. La plupart des scientifiques que j'ai connus ou que je connais,